Alors, bien qu'il ait rédigé deux traités concernant l'attaque et la défense des places, Vauban s'est toujours refusé à produire un traité de fortification, car il déclarait que chacune de ses réalisations étant adaptée aux conditions particulières de chaque place, bien, la fortification était une affaire de bon sens. Alors, il ne veut pas, en fait, se situer au niveau des professeurs de fortification des collèges, dont il assure qu'ils ne connaissent pas le terrain. Alors, il a cependant écrit en 1705 un traité de la fortification de campagne où il consacre curieusement quelques pages au retranchement de la sixième espèce qui sont, je cite, « ceux qui se font pour opposer aux descentes des armées navales sur les côtes ». Il y indique toute une série d'indications sur la fortification des côtes et les formes à lui donner, telles que les redoutes ou les tours à canon. Alors, Vauban précise toutefois qu'il est bien difficile d'empêcher une descente parce que l'armée navale est mobile, que si elle s'aperçoit que la partie est mal engagée, elle peut lever l'ancre et se présenter alors là où on ne l'attend pas. Alors, maintenant, on va voir comment Vauban a-t-il donc procédé pour mettre en défense le littoral de Brest au Cotentin. On va tout d'abord parler un petit peu de cet homme qui a passé 53 ans de sa vie au service du roi Soleil. Alors, Sébastien, le prêtre de Vauban, est né en mai 1633 à Saint-Léger de Foucheray, aujourd'hui Saint-Léger-Vauban, dans l'Yonne. Par son père, Albin le prêtre, il est issu de petits notables ruraux du Morvan qui se sont glissés dans la noblesse depuis quatre générations en vivant chichement de leur rente foncière et seigneuriale. Par sa mère, Edmée Carmignol, il est issu d'une famille roturière dont on ne sait pratiquement rien. Il est âgé de 18 ans quand son oncle, Edmée Carmignol, également son parrain, compagnon d'armes d'un officier du prince de Condé, le fait admettre comme cadet dans un régiment du dit prince. Alors, le jeune Vauban devient alors un frondeur. Entre nous, il sera frondeur à peu près toute sa vie, mais sur d'autres thèmes. Mais dès l'année suivante, en 1653, au cours d'une mission de reconnaissance en Champagne, il est fait prisonnier par les troupes royales et après une entrevue avec Mazarin, il change alors de camp. Ses aptitudes à se servir du compas et de la toile sont vite remarquées et on le place auprès du chevalier de Clerville, expert des sièges et des fortifications qui le forme à ses côtés. Cette rencontre avec Clerville est très importante. Alors, un petit mot de Louis-Nicolas de Clerville, dit le chevalier de Clerville. Il est né en 1610 et décédé le 16 octobre 1677 à Montpellier. Chevalier de Malte, il commence sa carrière sur les galères, en Méditerranée. Ingénieur en 1643, nommé maréchal de camp en 1652, en remerciement de sa fidélité au roi lors de la Fronde. Puis, commissaire général des fortifications en 1659, charge créée tout spécialement pour lui, charge qu'il occupera en fait à partir de 1662. Et en 1667, là, il se trouve en difficulté, car son projet de citadelle de Lille est rejeté au profit de celui de Vauban. On verra que ça a quand même quelque importance. De 1653 à 1703, Vauban participe à 49 sièges, au cours desquels il est blessé 8 fois, dont la fameuse blessure à la joue d'un coup de mousquet reçu à Douai en 1667. C'est à l'âge de 22 ans, en 1655, qu'il reçoit son brevet d'ingénieur ordinaire du roi. Nourri de l'expérience du feu, le jeune Vauban réfléchit au procédé de l'attaque des places. Il conçoit donc et codifie une méthode de siège des places fortes, décomposée en une suite logique de 12 phases, fortement inspirée de l'œuvre de Blaise de Pagan. Blaise de Pagan, donc 1664-1665. Blaise de Pagan, un petit mot comme pour Clerville, pour mieux situer. Il est issu d'une famille napolitaine au service de la papauté et est né en Avignon, donc en 1604. Il a servi le roi Louis XIII de 1620 à 1640 en participant à de nombreux sièges, dont celui de Montauban, où il perd un œil. Malheureusement, il devient aveugle en 1642. C'est alors qu'il dicte plusieurs ouvrages, dont le plus connu s'intitule « Les fortifications du comte de Pagan », publié en 1645. Et qui, vraiment, c'est pratiquement le livre de chevet de Vauban au début de sa carrière. En 1661-62, le roi confie à Vauban le démantèlement à la mine des fortifications de Nancy. En bon ingénieur, Vauban améliore les fortifications en préconisant l'adaptation du tracé bastionné, donc il adapte au terrain, et l'échelonnement de la défense en profondeur. Après les sièges de Tournai, de Douai et de Lille, qui confirment sa notoriété de preneur de ville, Louis XIV lui confie le soin d'édifier la citadelle de Lille, celle qu'on a appelée la reine des citadelles. À partir de 1668, Vauban, c'est là où il y a un problème, car il est mis en concurrence avec le chevalier de Clerville, devenu commissaire général des fortifications, et il est mis en concurrence, donc, je vous le disais tout à l'heure, au sujet des travaux effectués à Dunkerque et à Lille après. En réalité, il s'agit d'une lutte d'influence entre deux ministres de Louis XIV, Colbert, ministre de la Marine et protecteur de Clerville, et Louvois, secrétaire d'État à la guerre et protecteur de Vauban. La direction des places fortes était ainsi répartie en deux autorités, souvent rivales. Le département de Colbert comprenait les côtes, sauf celle de Flandre maritime, et celui de Louvois comportait les provinces frontières du Nord et de l'Est, à part les évêchés. Le chevalier de Clerville restera commissaire général des fortifications jusqu'à sa mort, le 16 octobre 1677. Ce n'est donc pas par manque d'intérêt personnel que Vauban ne s'intéresse pas à la défense des côtes dans la première partie de sa carrière, mais bien en raison de la division des pouvoirs. En attendant, Vauban est en charge de toutes les fortifications du département de Louvois, c'est-à-dire les fortifications terrestres. Avec la guerre de Hollande, en 1673, Vauban implore le roi et Louvois de mettre en place son pré-carré. En fait, son but, c'est de réduire le nombre de ces places pour ne conserver que les plus fortes. Et ça a du mal à passer. Le siège victorieux de Maastricht sera pour lui le moyen de mettre en pratique sa méthode d'attaque des places et de conduite des sièges. Vauban est nommé commissaire général des fortifications le 4 janvier 1678, soit à peine 3 mois après la mort de Clerville. Et à partir de cette date, jusqu'en 1706, Vauban contrôle, contresigne et arrête tous les projets de fortification du royaume. Au service du roi Soleil, il parcourt l'équivalent de 4000 km par an, le plus souvent à cheval ou en chaise à porteur, soit pour conduire des sièges, soit pour réparer ou construire des fortifications. Il fortifie ainsi le royaume en se consacrant aux défenses terrestres, place du Nord et de l'Est, également dans la deuxième partie pour les défenses côtières, car la ceinture de fer qui protège les frontières terrestres fait cruellement défaut sur les frontières maritimes. Grâce à un service de courrier exceptionnel pour l'époque, il tient journellement le roi au courant de tout ce qui se passe, et en particulier de ses travaux, et reçoit des nouvelles du royaume et de ses ingénieurs. Ses correspondances montrent un homme instruit de tout, un homme franc, un homme juste, ayant le souci de faire du bien autour de lui. L'œuvre de Vauban, c'est environ 130 places fortes qui ont été remaniées, une trentaine de projets qui seront réalisés plus tard, et une trentaine construits ex nihilo. Alors, il faut bien distinguer la construction d'enceintes urbaines et de villes neuves, de l'édification de forts et batteries à destination exclusive de garnisons. Le nord de la France est particulièrement servi, ainsi que les Alpes. Tout ça, donc, date pratiquement de la première partie on va dire, du règne, entre guillemets, de Vauban. Face à la montée des périls sur le littoral, en juin 1692, je vous rappelle que Tourville perd 15 vaisseaux suite à la bataille de la Hougue, qui a eu lieu à Barfleur. En novembre 1693, Saint-Malo est attaqué par les Anglo-Hollandais. Donc, face à cette montée des périls, le roi lui confie pour la campagne de 1694 le commandement de la place de Brest. Mais il lui confie à la fois les troupes de terre et de mer, c'est-à-dire le commandement interarmes. L'année suivante, Vauban commande en Bretagne dans 6 évêchés sur 9. Basse-Bretagne, Cornouailles, Léon, Trégor et Saint-Brieuc, et en Haute-Bretagne, Dole et Saint-Malo. Louis XIV le fait maréchal de France le 14 janvier 1703 pour ses services rendus au royaume. Vauban s'éteint le 30 mars 1707 à Paris à l'âge de 74 ans et son corps sera enterré dans l'église paroissiale de Bazoches près de son château. Son cœur, quant à lui, est transporté le 28 mai 1808 dans l'église du Dôme aux Invalides à Paris, donc vous avez son tombeau, où il repose parmi les plus grands maréchaux de France. On va maintenant voir Vauban en Bretagne et en Normandie. Je cite Vauban qui écrit dans la conclusion de son projet de paix assez raisonnable, rédigé en 1706, il écrit ceci. « Venons à la frontière maritime. On a rasé Boulogne, Dieppe Cherbourg et Granville très mal à propos, puisque ces places fermaient, pour ainsi dire, les accès aux descentes dans les endroits du royaume où elles sont le plus à craindre et le plus à portée des ennemis. Alors, province frontière, la Bretagne et la Normandie, avec la presqu'île du Cotentin, font figure de bastions avancés du royaume de France, directement face à l'Angleterre. Leur caractère maritime, source de richesses en raison du cabotage et des échanges commerciaux, leur confère un statut stratégique, source quant à lui de convoitise et de crainte. À compter de la guerre de Hollande, 1672-1678, et plus encore de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, qui suit de peu la glorieuse révolution, c'est celle qui a amené sur le trône d'Angleterre Guillaume de Nassau, sous le nom de Guillaume III, les coups de main et pillages se multiplient sur les côtes ou dans les îles. Chaque incursion, soit une quarantaine, entre 1683 jusqu'en 1783, nous ne verrons que la période vaubanesque, si on peut dire, rappelle un peu la nécessité de maintenir les côtes en état de défense et de protéger des populations toujours sur le qui-vive. Face à cette montée de la menace, la nécessité de fortifier les côtes et les principaux ports, notamment ceux de Saint-Malo, Morlaix et Brest, afin de les mettre à l'abri des descentes de l'ennemi, devient beaucoup plus pressante. Alors, face à cette guerre de harcèlement, qui vise surtout à déstabiliser le royaume de France sur ses frontières maritimes, dans le cadre d'une véritable petite guerre littorale, la fortification constitue la principale réponse à l'attaque, afin de mettre en défense le littoral breton et normand. On va maintenant voir les différents types de fortifications côtières, et là on va faire une petite visite. Alors, les solutions architecturales qui s'offrent pour la défense des côtes bretonnes et normandes sont essentiellement de 5 types. Tout d'abord, l'enceinte urbaine. La première solution, donc l'enceinte urbaine. En Bretagne, seule celle de Brest est créée au cours de cette période, même si l'étude des plans anciens, notamment le plan de Dubuisson-Aubenais, montre que Brest était déjà dotée de fortifications d'agglomération dès 1636. Au-delà de la défense de l'arsenal, il est question de fédérer les bourgs de Brest et Recouvrance et de concevoir une ville nouvelle tournée vers la mer, fonctionnelle, capable d'accueillir une population importante, si nécessaire, à la marine du Roi Soleil. Vauban, en 1683, reprend le projet de certains massiacs de Sainte-Colombe. Il est intégré dans le plan d'ensemble, et il intègre, pardon, dans le plan d'ensemble, le château médiéval. Il le modernise et l'adapte à l'artillerie moderne. Celui-ci devient citadelle, surveillant à la fois la ville, la campagne et le large. La ville est dotée de deux portes, celle de Landerneau et du Conquet, malheureusement détruite au début du XXe siècle. Et la fortification prévoit déjà l'essor de la ville qui suit un plan vraiment classique à damier. À Saint-Malo, on se contente de remanier très largement les fortifications médiévales. Donc, le 5 avril 1700, Vauban rend son plan définitif pour Saint-Malo et Saint-Servant, mais les plans du grand ingénieur restent dans les cartons. Quant à Cherbourg, les travaux débutés en 1687 seront démantelés en 1688 sur ordre de Louvois, qui craignait la prise de la forteresse en cas de descente ennemie. Le deuxième type, ce sont les batteries de côte. Petites ou grandes, de campagne ou permanentes, elles doivent se comporter comme celles d'un vaisseau de guerre. Établies au ras de l'eau, elles sont dotées d'un niveau de feu pour l'artillerie. Alors ici, on a les batteries de Brest, et on a quelque chose d'intéressant, parce que là, on voit tous les canons, on voit tout ce qui se passe. Elles permettent aux boulets des canons, en jouant avec l'effet de ricochet, de balayer le pont des navires ou de les traverser de part en part en mettant le feu aux poudres. À ciel ouvert, la batterie a un avantage sur les casemates des forteresses, qu'elles soient en pierre ou de mer. Ici, l'efficacité du tir est supérieure, mais le danger est partout, car les boulets pleuvent. Donc le goulet de Brest fournit un parfait exemple d'utilisation de ces batteries de côte. De même, l'établissement des redoutes de la côte de la Hougue, là, donc on revient chez nous, permet de visualiser le dispositif mis en place par Vauban. Alors, chez nous, il n'a pas choisi ce style de batterie. Il a choisi cordes plutôt des fortins, comme celui de Rétoville, qui est maintenant détruit, ou des corps de garde comme celui de l'île aux Moines. Et là, je fais un petit aparté, on voit vraiment le génie de Vauban. On disait toujours qu'une des facettes de Vauban, c'était de s'adapter au terrain, de se confondre avec le terrain. Et là, franchement, pour voir qu'il y a un corps de garde sur l'île aux Moines, Ben, vu de la mer, ça ne doit pas être facile. En 1695, on compte respectivement 5 batteries sur la côte nord du Goulet, dite côte de Léon, 5 batteries sur la côte sud du Goulet, dite côte de Cornouailles. Mais sur la côte est du Cotentin, à la même époque, il n'y a 15 redoutes côtières. Alors que les redoutes et les batteries de Bretagne vont augmenter considérablement, on restera à pratiquement 15 redoutes côtières sur la côte est du Cotentin. Bien sûr, on ne peut pas comparer les 2600 km de côte de Bretagne avec les 330 km du Cotentin. Il y a ça aussi. Un autre type de fortification, ce sont les tours côtières. Alors là, on va s'en donner à cœur joie. De manière plus ponctuelle, en effet, on édifie des tours de défense côtière représentées par deux grandes familles de tours. On trouve d'une part la tour avec batterie basse. Donc le type de tour, c'est celle de Camaret, construite par l'ingénieur Traverse de 1693 à 1696. Cette tour, donc dite tour dorée, a la particularité d'avoir donc des batteries basses. Elle est composée de deux étages, elle fait 18 mètres de haut. Projetée dès 1683, la tour est tracée en 1689 et élevée entre 1693 et 1696. La batterie en bas comporte 11 embrasures et c'est un ouvrage capital pour la sécurité de la rade de Brest. En effet, l'anse de Camaret est un mouillage d'attente. Pour les navires amis, les ennemis, on n'en veut pas. D'autre part, un autre type de tour, c'est la tour avec batterie haute, comme celle que l'on trouve aux Hébiens. Donc les Hébiens, c'est sur la côte d'Armor, ou celle de Tatillou, bien sûr, et de la Hougue, que vous connaissez, construite entre 1694 et 1699. Elles ont l'avantage du tir de bombardement et des tirs plongeants. Situé au cœur de la baie de Saint-Jacques, entre le Cap Fréhel, qui est une zone importante de mouillage, et la Rance, l'île des Hébiens est un haut lieu stratégique pour la défense extérieure de Saint-Malo. Au sommet de la tourelle d'observation, on peut remarquer l'alignement du donjon de Fort-la-Latte et du phare de Fréhel. Cette tour est la plus petite. C'est pas la plus petite. Elle fait 18 mètres de haut. C'est pas la plus petite. Elle a été partiellement financée par un impôt. Donc, c'est ça une de ses caractéristiques. Levée sur le revenu des pêcheurs. Je peux vous dire que le dossier, il est épais. Parce que je peux dire qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Elle a servi également de phare et de poste de guet pour les douaniers. Les autres tours, donc, typiques de ces tours à batterie haute, sont les tours de Saint-Va. Elles ont été construites entre 1694 et 1699. Elles aussi ont deux étages. Elles sont beaucoup plus hautes, puisqu'elles font toutes les deux 20 mètres de haut. L'intérêt de ces tours, c'est qu'elles doivent résister à l'assaillant et elles sont conçues comme autonomes, avec une citerne et des magasins à vivres, surtout des magasins à poudre, qui sont installés en sous-sol, tandis que les niveaux supérieurs regroupent les espaces de vie. On a le logement des soldats, officiers et corps de garde. Quant à la terrasse à ciel ouvert, elle est consacrée à la défense. Une calotte sphérique en guérite vient protéger le puits de l'escalier à vis en cas de bombarderie. En général, les canons des tours sont de petit calibre, le plus souvent des pièces de 3 à 6 livres, afin de réduire l'encombrement sur la terrasse. Tatillou fait exception, car elle est conçue pour recevoir de la grosse artillerie jusqu'à 24 livres. Un mât de pavillon normalement complète l'ensemble, bon, il a été enlevé, afin de communiquer par signaux avec les troupes et les batteries côtières environnantes. On a un tableau du 19e siècle où on voit encore ce mât. Il est à noter que ces plans datent du 19e siècle, car dans le carton Caravincennes, dans le carton réservé à la Hougue et à Tatillou, il n'y a plus grand-chose. On ne sait pas ce que c'est devenu, c'est peut-être pas perdu pour tout le monde, mais il y a déjà longtemps qu'il n'y a plus grand-chose. Déjà au début du 19e siècle, puisqu'on a dû refaire ces plans a posteriori. La tour permet aussi de voir plus loin, la tour à batterie haute. À la fois poste de surveillance et corps de garde, elle offre la possibilité d'anticiper l'arrivée de l'ennemi afin d'avoir le temps de mettre en place une contre-attaque. Elle permet ensuite de dominer l'espace maritime à défendre, la zone de mouillage des navires, tout en évitant, par la bombarderie, que les ennemis ne tiennent le mouillage. Enfin, la tour, on l'a vu, est dotée de capacités d'autodéfense. De plus, à Saint-Va, Le tir croisé des batteries hautes, conjugué au tir des batteries de la côte, protège complètement la baie. Un autre type de tour, alors là je l'ai mise avec les tours de défense, bien que ce soit des tours plutôt de protection. On connaît l'amour de Vauban pour protéger les hommes. Ce sont les tours de Ouessant et du Cap Fréhel. Car avant tout, ce sont des tours à fanal, c'est-à-dire un phare doté d'une torchère. Elles restent aussi un poste d'observation pour le guet et les signaux. En fait, à Ouessant, il s'agissait de réaliser deux fanaux aux extrémités de l'île pour assurer la sécurité des navires de commerce qui cherchent à entrer dans la Manche. Toutefois, seul le Stiff verra le jour. La tour est allumée en 1700. Elle a été conçue par l'ingénieur Mollard. Elle fait 32 mètres de haut et elle comporte 4 niveaux. Elle mesure 32 mètres, elle est 89 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle a fait l'objet d'une mission d'étude dès 1681, mission d'étude présidée par Tourville. Elle est achevée en 1699. Simplement, donc achevée en 1999, le feu allumé en 1700. Mais le feu était allumé épisodiquement puisqu'il ne fonctionnait que les mois d'hiver, du 1er octobre à la fin mars, avec du bois ou du charbon de terre. Et puis il se passe un problème, c'est qu'en 1717, le feu ne sert plus car il doit être restauré. Et il ne refonctionnera qu'en 1740 où il aura subi des modifications. L'autre tour à fanal, se trouve au Cap Fréhel. Elle a été conçue par l'ingénieur Garangeau, achevée en 1700. Elle est située à 5 lieues de Saint-Malo et se trouve dans l'alignement exact du donjon de Fort-la-Latte et de la tour des Ébiens. On a vu tout à l'heure, donc il y a tout un alignement destiné à protéger Saint-Malo. Outre un magasin en rez-de-chaussée et un corps de garde au premier étage, le logement de celui qui aura le soin du fanal au second étage et la torchère en terrasse. Alors, l'éclairage à l'air était fait à l'air libre, sur réchaud, puis sous lanterne et était obtenu comme au Stiff avec du bois ou du charbon de terre. Alors c'est cette tour qui est la plus petite car elle fait que 15 mètres de haut. Alors il faut, si vous connaissez Cap Fréhel, il y a eu trois phares. Celui-ci qui est encore debout mais en mauvais état. Toi, André, c'est typiquement un phare qui a protégé et qui commence à tomber en ruine. Le deuxième a été détruit donc, pendant la guerre, donc on a un troisième phare. En ce qui concerne donc la protection donc, des côtes par les tours, en particulier pour les phares, il faut noter quand même que le premier phare de Cordouan, qui avait vu le jour en 1611, là on est à la fin donc, du 17e, et entre Vauban et la fin du 18e et le 19e, qui sont les grandes périodes d'élévation des phares, il n'a pratiquement rien se passer. Par exemple, le phare de Gadeville, qui protège donc le rat de Barfleur, le premier phare de Gadeville ne sera élevé qu'en 1775. Donc, mais Vauban a quand même voulu assurer la sécurité, la protection, non pas que la défense. Un autre type de fortification, c'est le fort à la mer. J'ai choisi le Taureau et la Conchée. Le Taureau dans la baie de Morlaix et la Conchée à Saint-Malo. Alors, le fort à la mer se décline selon différentes versions. Il y a le fort classique qui repose sur le principe de l'occupation totale du rocher. Il comprend généralement deux niveaux de feu, donc les batteries hautes et les batteries basses. Les batteries basses sont dites rasantes car elles sont placées sous casemate qui permettent de faire feu en éventail et de suivre l'évolution de la flotte ennemie. Le fort à la mer est conçu comme un navire de haut bord. Et là, vraiment, on a vraiment cette impression quand on les voit. Autonome, il ne doit compter que sur lui-même. Ainsi, les voûtes protègent-elles non seulement les servants des pièces, mais aussi et surtout les espaces de vie, les casernements, la chapelle pour le salut des âmes, la citerne alimentée par les eaux pluviales et le magasin à poudre. En Bretagne, seuls deux édifices peuvent être considérés comme de véritables forts à la mer, donc le fort ou château du Taureau, dans la baie de Morlaix. Il faut savoir que le fort primitif date du milieu du XVIe, et aujourd'hui, seule sa tour d'artillerie rappelle le premier ouvrage. Et puis, on a le fort de la Conchée, qui est la première ligne dans la baie de Saint-Malo, puisqu'il y a deux lignes de défense dans la baie de Saint-Malo. Donc ça, c'est le fort à la mer classique. Et puis, il y a le fort à la mer hybride, car ils sont construits sur un rocher ou un îlot, mais ils combinent du côté mer une batterie de grande dimension et du côté de la terre une fortification terrestre. Ce type de fortification comporte un seul niveau de feu pour l'artillerie. Les représentants de cette famille architecturale, construits de 1689 à 1700, sont regroupés donc dans la baie de Saint-Malo. On a donc Fort Harbour, Petit Bay, et le Fort Royal qui est maintenant s'appelle le Fort National. Le dernier type est l'île Fort. L'île Fort, alors voilà, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. La tour est absolument ruinée. Alors l'île Fort se trouve à l'embouchure de la Bervrac. L'île Fort constitue en général un ensemble fortifié de grandes dimensions. Elle a pour but d'observer et de protéger une vaste zone de mouillage où les navires font relâche. Alors, contrairement au fort à la mer, l'île Fort est constituée de parties distinctes. L'île Fort comporte plusieurs niveaux de feu et permet une défense rapprochée en cas d'attaque terrestre. Il y a aussi un autre fort, mais je n'ai pas trouvé d'image vraiment parlante à Perros-Guirec. Donc voilà, on a vu un petit peu tous les aspects des fortifications côtières. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif. On va maintenant voir comment Vauban travaillait, parce que tout cela est un travail d'équipe. On va donc parler un tout petit peu des deux principaux ingénieurs qui ont travaillé, car Vauban était dans sa tâche par des ingénieurs, à la fois collaborateurs et pour certains élèves du maître. Les deux principaux sont, en ce qui nous concerne, Decombes et Garangeau. Il faut dire qu'à la fin de sa carrière, Vauban fait équipe avec près de 280 ingénieurs, qu'il connaît pratiquement tous, répartis sur tout le royaume. À plusieurs reprises, il incite d'ailleurs auprès du ministre en charge des fortifications sur l'esprit de continuité à donner aux travaux de fortification. Il n'aime pas qu'on touche et qu'on change ses ingénieurs. Voici ce qu'il écrit à Le Pelletier en 1695. « Ne faites point de changement aux ingénieurs que le moins que vous pourrez. Cela n'est bon qu'à tout déranger et faire perdre la suite des projets d'une manière à ne plus savoir où l'on en est. Avant que les nouveaux venus soient instruits de ce qui concerne les ouvrages et leurs accompagnements, il s'y commet tout plein de fautes. » Donc, comme je vous le disais, en Bretagne et Normandie, on note surtout donc Benjamin Decombes. Alors, Benjamin Decombes est à l'origine un marin, lieutenant de vaisseau à Brest lorsqu'il n'avait que 18 ans. Il est embarqué par le duc de Beaufort pour une campagne en Méditerranée en 1669. C'est aussi un ingénieur. Il participe au bombardement d'Alger en 1683, à celui de Gênes l'année suivante. Puis, il est même envoyé en mission au Canada. Remarqué par le roi et Vauban, il est chargé des ouvrages de fortification du port de Dunkerque, de Brest et d'Abbeville. Et c'est là qu'il intervient chez nous, car il est nommé directeur des fortifications de Haute et Basse Normandie en 1693. Il a alors en charge les fortifications du Tréport, de Dieppe, de Saint-Valéry, de Fécamp, du Havre, Honfleur, de Rouen, et celle du littoral de la côte est du Cotentin, dont les tours tronconiques de La Hougue et de Tatillon. En 1699, Vauban recommande son frère Pierre Decombes au secrétaire d'État à la marine pour le poste de commissaire général de l'artillerie de la marine. Il le recommande en indiquant qu'il est l'un des plus anciens dans le métier et par-dessus cela un bon marin et homme de mérite. Il obtient donc Pierre obtient le poste en 1703 et participe au siège de Gibraltar et Nice en 1704 et 1705. Quant à Benjamin Decombes, eh bien, il s'éteint à Caen le 12 juillet 1710 et il est inhumé dans l'enceinte du château, dans l'église Saint-Georges. Le deuxième ingénieur dont on parle beaucoup en Bretagne, c'est Jean-Siméon Garangeau, 1647-1741. Après avoir participé en tant que volontaire au siège de Maastricht et avoir été capitaine du régiment de Champagne, il est réformé suite à une blessure. Les ingénieurs donnent vraiment de leur personne. On sait que Vauban était blessé. Garangeau blessé, on en verra encore un autre tout à l'heure. Ses connaissances en dessin géométrique inculquées par son père, maître menuisier, le font s'orienter vers les arts. Après des voyages en Italie et en Angleterre, il est architecte à Paris en 1677. En 78, il est nommé contrôleur des bâtiments de Versailles et de Fontainebleau et reçu ingénieur du roi. En tant que tel, il supervise les travaux de l'arsenal de Marseille en 79 avant d'être nommé à Brest. Il recevra quelques temps plus tard son brevet d'architecte. En mai 1683, Garangeau assiste Vauban à Brest et trace les plans des batteries du Goulet. En poste pendant plus de 10 ans à Brest, Vauban le nomme en 1691 ingénieur en chef et directeur des fortifications de Saint-Malo, où il restera en charge jusqu'à sa, enfin, où il restera jusqu'à sa mort, à Saint-Malo. Il a également la charge des fortifications de Haute-Bretagne. Il meurt à l'âge de 94 ans le 25 août 41. Il a entre autres réalisé les plans du fort du Taureau, des forts de la Conchée et de l'île aux Moines. L'extension et la modernisation du fort La Latte, les tours des Ébiens et celle du Cap Fréhel. Donc vraiment, c'est un homme clé en Bretagne. Alors, on lui doit aussi les célèbres malouinières des corsaires. Alors, on a deux autres ingénieurs qui ont pris aussi part aux fortifications de Bretagne, c'est Mollard et Traverse. Alors, Traverse a travaillé à la tour de Camaret, et d'ailleurs, lors de la bataille de Camaret, il est blessé gravement et perd un bras. Alors, maintenant, on a fait, donc, Vauban a établi ses fortifications. On va arriver maintenant aux épreuves du feu. À quoi servaient ? Est-ce qu'elles ont servi ? Quel était leur destin ? Est-ce qu'elles ont servi un petit peu dans l'histoire, quand même ? C'est ce qui était intéressant de voir. Donc, en 1693, en novembre, première attaque de Saint-Malo, qui est attaquée par une flotte de guerre composée de 12 vaisseaux de ligne. Cinq galiotes à bombes. L'ennemi réduit à néant le chantier du fort de la Conchée. La ville close subit un bombardement naval sans grand effet, car seules 26 bombes tombent sur la ville. Dans la nuit du 30 au 31, une machine infernale, c'est comme ça qu'on l'appelait, en fait c'était un brûlot, véritable bombe flottante, est lancée vers la ville. On explique que la coque du bateau de peu de tirant d'eau, mais jaugeant tout de même 300 tonneaux, est garnie de barils de poudre et de projectiles divers. Elle finit éventrée sur les rochers et explose, mais la flotte ennemie repart vers Jersey, Saint-Malo est sauve pour cette fois. Mais cette attaque donne raison à Vauban, car la défense de la ville reste faible compte tenu du peu d'investissement financier du roi. Inachevé, le fort de la Conchée n'était pas en état de défense. Il y a 50 d'ouvriers qui y travaillaient, sont faits prisonniers par les Anglais. Et les Anglais, avant de les faire prisonniers, les avaient obligés à saborder l'ouvrage. C'est pour ça qu'il a été détruit, en fait. Le 15 décembre, Vauban écrit à Michel Le Pelletier, directeur général des fortifications, « Si le fort de la Conchée avait été achevé et garni de canons et de quelques mortiers, vraisemblablement, les ennemis ne se seraient pas présentés ou n'y auraient pas réussi, ce qui doit inciter le roi à faire effort pour l'achever dans l'année qui vient et mettre le Grand B en état. » Le Grand B qui se trouve un petit peu plus loin. La deuxième épreuve du feu, c'est celle de Camaret, le 18 juin 1694. Alors que Vauban est en route pour visiter les côtes, nos côtes, hein, pour la deuxième fois, il est rappelé d'urgence en Bretagne, car des espions ont indiqué que les Anglais n'étaient pas loin. La tour Vauban de Camaret est toujours en travaux, alors qu'une flotte hollandaise tente une descente sur Camaret pour s'emparer des batteries de canons de la côte sud du Goulet, ce qu'on a vu tout à l'heure. Vauban, lui, est de l'autre côté du Goulet et a guetté l'ennemi. On va lui laisser raconter l'attaque. « Les ennemis, monseigneur, cette lettre est adressée au roi, ont aujourd'hui voulu tenter la descente de Camaret avec 8 gros vaisseaux de guerre et plus de 70 autres petits bâtiments de toute autre espèce. Après 2 heures de grosses canonnades, fort bien répondues par la tour de Camaret, ils ont mis à terre, à demi-portée, des mousquets de retranchement. Ils ont été reçus d'eux-mêmes et malgré les altercations, ils ont eu 700 à 800 hommes tués, pris ou noyés. Le surplus est sauvé ou n'a pas mis à terre. Beaucoup de vaisseaux ont été endommagés, car l'affaire a duré longtemps. De notre part, il n'y a eu que 35 à 40 hommes de blessés, parmi lesquels se trouvent 2 officiers, dont l'un pourra mourir. En fait, c'est l'ingénieur Traverse qui perd un bras. Alors, grâce au savoir-faire de Vauban, à la fois preneur de ville et défenseur, c'est une déroute anglo-hollandaise. Alors, par contre, c'est le début d'une remontée de la Manche. La flotte ennemie va remonter la Manche, bombardant au passage, va se venger, hein, les ports de Dieppe le 22 juillet, Le Havre le 26 et 31 juillet, Dunkerque le 20 septembre, Calais le 27 septembre. Vauban, lui, ne quitte Brest que fin octobre. Il longe lui aussi les côtes et revient en Normandie, enfin dans le Cotentin, achever la visite qu'il avait commencée. Une autre épreuve du feu recommence pour Saint-Malo en 1695. En avril, les troupes anglaises débarquent aux îles Chausey et une nouvelle attaque a lieu le 15 juillet 1695 sur Saint-Malo. Mais la flotte anglo-hollandaise bombarde en vain le fort de la Conchée qui est achevé et qui réplique lui comme il peut. 2 jours plus tard, c'est au tour de la ville de subir le feu et là, 150 maisons furent touchées mais sans grands dégâts. Vauban propose alors des agrandissements, mais il fallait avant tout achever les ouvrages et surtout les garnir de canons. Donc on voit que jusqu'ici, quand même, les ouvrages ont servi. Et le dernier épisode que je tiens à vous conter, ce sont les Anglais qui se trouvent à Saint-Balaouge en août 1708. Le 20 août 1708, une flotte composée de 60 vaisseaux et frégates, conduite par l'amiral Ring, jette l'ancre à portée de canon de Saint-Va. Pendant que du côté français, le comte de Matignon rassemble entre 12 et 15 000 hommes, 60 chaloupes anglaises tentent le 23 août d'aborder le littoral près de la Hogue et de débarquer des soldats prêts à en découdre. Sous le feu nourri des batteries de la côte, du fort et de la tour, donc la tour, c'est la tour de la Hougue qui est armée de 4 pièces, on connaît exactement l'armement, une de 15 et une, 3 de 8, les troupes anglaises se replient finalement et rembarquent précipitamment. En fait, c'était peut-être pour tromper ce qui est considéré comme l'ennemi, c'était pour nous tromper. Ils tentent de nouveau de débarquer, là de façon beaucoup plus hardie, 5 jours plus tard. Mais de nouveau, le tir croisé des batteries hautes des deux tours, conjugué à celui des forts et des batteries de la côte, oblige les chaloupes à regagner l'escadre. La tentative de descente a de nouveau échoué. Alors, en ce qui concerne ça va, les Anglais semblent avoir été déroutés par une puissance de feu qu'ils avaient sous-estimée. Vauban, décédé l'année précédente, puisque je ne ferai pas l'injure de vous rappeler qu'il est décédé en 1707, il n'a pas eu la joie de constater que les travaux de fortification de la côte de la Hougue ont porté leurs fruits et que les tours ont bien joué leur rôle défensif. Donc, on a plusieurs exemples. En conclusion, on peut dire que Vauban et ses ingénieurs se sont efforcés, à partir de 1683, de fortifier le littoral breton et normand en le dotant de retranchements, de forts, de batteries de côte, aptes à refouler l'assaillant sur la plage. Il s'agissait en fait de mettre en place un système défensif cohérent, associant différents types d'ouvrages fortifiés, dotés de batteries, dont le tir croisé doit assurer une défense efficace. Alors, les historiens sont partagés quant à l'efficacité de cette défense côtière, mais par exemple, si on prend l'exemple du site de la Hougue, lieu de débarquement quand même des Anglais, lieu de débarquement favori des Anglais depuis des siècles, force est de constater qu'ils ont boudé ce rivage depuis 1708. Bon, sauf en 44, mais là, on leur en veut pas. Hein. Donc, ces ouvrages sont donc très certainement un exceptionnel moyen de dissuasion et plus encore de propagande, le roi devant montrer sa force face aux ennemis venus de la mer et aux populations littorales qui attendent de lui la mise en œuvre de cette défense. Et puis, pour vraiment conclure, il ne faut pas oublier la reconnaissance de l'œuvre fortifiée de Vauban par l'UNESCO en 2008. 12 sites ont été inscrits au patrimoine mondial et il est à noter que sur les 12 sites retenus, il y a 2 sites de fortification côtière. Il y a Camaré pour sa tour à batterie basse et puis Ipipipoura. Il y a les tours donc de Saint-Va, donc de Tatillou et de Saint-Va. Donc cette reconnaissance, Vauban disait toujours qu'il n'attendait qu'un peu d'encens de la postérité. Ben, cette reconnaissance est venue peut-être un peu tardivement, mais il faut noter que c'est le seul site militaire inscrit au patrimoine mondial. Je vous remercie.